VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue à l'édition du jeudi 26 mars 2015. Idrissa Seydoudia et Morgan Guiriec en votre compagnie. À la une ce soir.
Lutte contre Boko Haram au Niger. L'armée affirme que la situation est sous contrôle à Difa, dans l'extrême est du pays.
Si maintenant vous entendez le coup de feu, c'est que souvent nous avons nuitamment des individus qui cherchent à s'infiltrer dans la ville parce qu'effectivement de plus en plus la situation est intenable pour eux.
Entretien à suivre avec le colonel Moussa Salao Barmou.
En République centrafricaine, plus d'une dizaine d'éleveurs peuls ont été tués dans la Nana Gribizi. L'ONU autorise le déploiement de 750 soldats supplémentaires dans le cadre de la MINUSCA.
Par contre, en République démocratique du Congo, les Nations Unies décident de réduire leurs effectifs militaires de 10%.
Menace d'actes terroristes en Ouganda. La sécurité est renforcée à Kampala.
Crash dans les Alpes françaises. Le copilote aurait volontairement provoqué l'accident.
Dans moins de 10 minutes, la Minute Éco avec Jean-Roger Bion et les sports avec Nicolas Pineau. Mais d'abord, le journal.
En République centrafricaine, plus d'une dizaine d'éleveurs peuls ont été tués et plusieurs autres retenus en otage ces dernières 48 heures dans la préfecture de la Nana Gribizi au centre-nord. Des sources locales attribuent le forfait à un groupe d'anti-balaka. Par ailleurs, un puissant chef anti-balaka est arrêté à Boda, dans le sud du pays. On fait le point avec Félix Yepassi Zembrou.
Boukar Abdoul Garba, représentant de la Fédération nationale des éleveurs centrafricains de la Nana Gribizi, affirme qu'au moins une dizaine d'éleveurs peuls ont péri et une cinquantaine d'autres ont été enlevés au cours d'une attaque menée par des anti-balaka dans quatre villages non loin de Kaka-Bandoro. Le même témoin précise que plusieurs troupeaux de bœufs ont été aussi emportés. Confirmant l'attaque, le préfet de la Nana Gribizi, Gaston Yendemo, a parlé de 9 morts et 4 blessés pris en charge pour l'instant à l'hôpital de Kaka-Bandoro. D'autres sources parlent de représailles aux assauts menés par des éleveurs peuls le week-end dernier dans plusieurs villages sur l'axe Kaka-Bandoro. Le bilan provisoire de ces attaques faisait état d'une vingtaine de morts. Par ailleurs, à Boda, dans le sud du pays, un puissant chef anti-balaka, dénommé Sangolais de son vrai nom Willy Kondji, a été arrêté dans la nuit par la gendarmerie nationale. L'homme, âgé d'une vingtaine d'années, est accusé de graves crimes dans la localité. La population de Boda se réjouit de son arrestation.
Et c'est dans ce contexte de violence que l'ONU a décidé d'augmenter le nombre de casques bleus opérant en RCA. Dans une résolution, le Conseil de sécurité autorise le déploiement de 750 soldats et 280 policiers supplémentaires dans le cadre de la MINUSCA, mesure notamment prise en prévision des prochaines élections.
Dans le même temps, en République démocratique du Congo, les Nations Unies ont décidé de réduire les effectifs militaires de 10%, soit 2000 hommes sur près de 20 000 soldats autorisés. Le mandat de la mission onusienne est toutefois renouvelé pour un an. La résolution adoptée aujourd'hui souligne la nécessité de rendre la MONUSCO plus souple, plus mobile et plus efficace sur le terrain. Selon des diplomates du Conseil, Kinshasa réclamait le retrait immédiat de 6 000 casques bleus. La force est présente depuis 15 ans en RDC et essentiellement déployée dans l'Est, en proie à des conflits depuis plus de 20 ans. C'est une des missions les plus importantes et les plus chères déployée par l'ONU.
Sécurité renforcée en Ouganda ce jeudi, une décision qui fait suite aux menaces d'actes terroristes par les islamistes somaliens d'Al-Shabaab, mais aussi à une mise en garde des États-Unis contre un risque d'attentat imminent à Kampala. On fait le point avec Jack Aristide.
L'ambassade américaine dans la capitale ougandaise a révélé hier avoir obtenu des informations sur des menaces terroristes probables visant des endroits fréquentés par des Occidentaux, incluant des citoyens américains à Kampala, et qu'un attentat pourrait avoir lieu prochainement. Pour le porte-parole de l'armée ougandaise, Paddy Ankunda, l'avertissement est absolument lié à Al-Shabaab, tel que le rapporte l'AFP. Le groupe somalien avait déjà perpétré en 2010 un double attentat qui avait fait près de 80 morts. à Kampala. Les Chebab, d'après lui, semblaient avoir identifié des points vulnérables comme cibles potentielles et la sécurité avait été renforcée en conséquence. Les insurgés somaliens menacent régulièrement d'attaquer l'Ouganda, grand contributeur à la force de l'Union africaine en Somalie, l'AMISOM, qui combat les islamistes aux côtés des fragiles autorités de Mogadiscio.
L'armée nigériane retient depuis mardi deux journalistes d'Al Jazeera à Maïdougouri, dans le nord-est du pays, a annoncé jeudi la chaîne de télévision basée au Qatar. Le point, Camille Gros-Didier.
Selon Al Jazeera, Ahmed Idriss et Ali Mustafa ont été interpellés à leur retour dans leur chambre d'hôtel après avoir couvert des combats entre l'armée nigériane et la milice djihadiste Boko Haram. Suite à leur interrogatoire, leurs caméras ont été confisquées alors qu'ils avaient filmé avec l'aval des autorités militaires nigérianes. Ils ont reçu l'ordre de rester dans leur chambre d'hôtel. Dans un communiqué, l'armée nigérienne a affirmé que les deux hommes avaient travaillé sans protection ou accréditation, alors qu'Al Jazeera affirme qu'ils avaient obtenu une accréditation les autorisant à se rendre partout. La sécurité a été renforcée à l'approche des élections présidentielles et législatives prévues samedi dans le pays. Le président nigérian Goodluck Jonathan a ordonné la fermeture des frontières maritimes et terrestres du pays jusqu'au scrutin, a annoncé mercredi le ministère nigérian de l'Intérieur.
Le gouvernement guinéen a invité la classe politique au dialogue, signale l'agence France-Presse. Il a jugé excessif l'appel des trois principaux partis de l'opposition qui contestent le calendrier électoral, a manifesté contre le gouvernement du président Alpha Condé.
Selon le ministère libérien de la Santé, le tout premier malade souffrant du virus à Ebola au Libéria, en plus d'un mois, une femme a été placée en quarantaine. Son état est stable. Elle réagit favorablement au traitement pour l'instant.
Et des pirates ont pris d'assaut un bateau de pêche iranien au large des côtes somaliennes. Et c'est ce qu'indique l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les premiers résultats de l'analyse de la boîte noire d'Airbus 320 de Germanwings, qui s'est écrasée mardi dans les Alpes françaises, écartent la piste terroriste à ce niveau d'enquête. Mais le procureur français chargé de l'enquête a plutôt révélé que le copilote a volontairement provoqué le crash, Eddie Isango.
Tout permet de croire que le pilote a volontairement laissé crasher l'avion, selon le procureur français chargé de l'enquête. Brice Robin a en effet déclaré lors d'une conférence de presse que le pilote, resté seul dans les cockpits après un déplacement momentané du commandant de bord, a refusé d'ouvrir la porte au retour de celui-ci, malgré l'insistance. Pour le procureur, il s'est agi d'une abstention volontaire du copilote. Les copilotes, un Allemand de 28 ans du nom d'Andreas Lubitz, a, selon le procureur, actionné ensuite le bouton commandant la perte d'altitude pour une raison inconnue. Toutefois, les procureurs français estiment que le jeune copilote a voulu détruire l'avion, d'autant plus que, selon l'enquête, il était apte à piloter l'avion, même s'il travaillait depuis quelques mois seulement sur cet appareil. 150 personnes sont mortes dans ces crashs de l'avion de la compagnie Germanwings.
L'aviation saoudienne a bombardé aujourd'hui des installations militaires clés au Yémen dans le cadre d'une offensive impliquant des alliés arabes du Golfe, Persique et d'autres pays de la région en soutien au président internationalement reconnu du Yémen, Abrabou Mansour Hadi. Les précisions de Timothée Donongmaï.
Les frappes aériennes visaient des sites autour du principal aéroport de la capitale Sanaa et ont endommagé des maisons dans le secteur. L'Iran a qualifié l'offensive d'étape dangereuse qui va envenimer la crise au Yémen. Téhéran appuie les rebelles houthis qui tentent de renverser M. Hadi, mais un haut responsable iranien a exclu une intervention militaire de son pays. Des officiels des services de santé houthis disent qu'au moins 18 personnes ont été tuées dans les raids aériens et 24 blessées, dont le dirigeant Mohamed Ali al-Houthi, selon des informations non confirmées cité par un pigiste de la Voix de l'Amérique. Mais le porte-parole d'Al-Houthi l'a démenti. L'Arabie saoudite a mobilisé 150 000 militaires et 100 avions de combat, tandis que les Émirats arabes unis ont engagé 30 avions de combat, Bahreïn et le Koweït 15 appareils chacun et le Qatar 10, a indiqué Al-Arabiya, chaîne de télévision à capitaux saoudiens. Selon Riyad, l'opération mobilise d'autres pays alliés comme l'Égypte, la Jordanie, le Soudan, le Pakistan et le Maroc. 4 navires de guerre égyptiens sont ainsi entrés dans le canal de Suez afin de sécuriser le golfe d'Aden au large du Yémen, rapporte l'AFP. À noter que la Ligue arabe a promis son soutien total à la campagne menée par les Saoudiens au Yémen.
Le Hezbollah chiite libanais, soutenu par l'Iran, a condamné jeudi l'intervention de Riyad au Yémen, la qualifiant d'agression américano-saoudienne et appelant le royaume à cesser immédiatement ses opérations, selon un communiqué.
Les forces irakiennes ont lancé aujourd'hui des opérations pour reprendre Tikrit, des heures après les frappes aériennes de la coalition menée par les États-Unis contre des positions du groupe État islamique dans la ville.
Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco ce soir avec Jean-Roger Bion.
L'insécurité due à Boko Haram et à la crise centrafricaine combinée à la chute des cours des matières premières plombe les économies de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC. Les dernières prévisions de croissance de 2015 établies mercredi entre 4,2 et 4,3% confirment une tendance à la baisse persistante observée depuis fin 2014. Les projections initiales de la CEMAC tablaient sur une accélération époustouflante de cette croissance de 5,3% à 6,7% au cours du premier trimestre. Le Nigeria rêve de devenir une puissance agricole. C'est du moins l'ambition affichée par le ministre de l'Agriculture qui mise sur la terre pour nourrir la population et sortir de la pauvreté, le Nigeria. Le pays est connu pour être le premier producteur de pétrole brut du continent. Le ministre revendique la création de 3,2 millions d'emplois au Nigeria depuis 3 ans, majoritairement dans le secteur agricole. Mais il est vrai que le Nigeria cherche à réduire sa dépendance aux importations de nourriture, telles le blé. Plus d'1 milliard de dollars de blé américain importé l'an dernier pour développer ses propres ressources. Et les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis ont baissé plus que prévu, selon les chiffres publiés ce jeudi par le Département du Travail. Le ministère a recensé le dépôt de 282 000 nouvelles allocations chômage pendant la semaine close le 21 mars, reflétant un recul de 3,1% sur une semaine. Les analystes prédisaient sur un repli bien moins marqué, moins 0,3%. Le ministère n'avance aucun facteur particulier pour expliquer cette baisse sur une semaine qui fait tomber le nombre d'inscriptions à son plus bas niveau en un mois.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Jean-Roger Bion.
Place au sport avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane.
Série de matchs amicaux hier pour les sélections africaines. Le Mali perd un match fou contre le Gabon.
Très décevant, lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, les Aigles se sont inclinés contre le Gabon, qui a même manqué un pénalty. Victoire des Panthères gabonaises, 4-3. Pour les Maliens, le Bastier Diakité Ouagé et l'ancien Stéphanois Sako ont bien marqué. Mais en face, l'inarrêtable Pierre-Emerick Aubameyang a inscrit un doublé. Excellent, Evouna a aussi marqué, tout comme l'ancien Lorienté Ekuélé Manga. Dans quelques jours, le Mali affrontera le Ghana et devra se montrer plus convaincant, notamment en défense. Les autres résultats hier, victoire du Ghana face à la Namibie 1-0, défaite surprenante du Nigeria contre l'Ouganda 1-0. Le Swaziland a été dominé logiquement par l'Afrique du Sud 3-1. A noter aussi en Europe, la défaite des Américains 3-2 face au Danemark et l'Allemagne qui a dû concéder le match nul 2-2 face à l'Australie.
Et à suivre ce jeudi, Nicolas, le choc à Paris. France-Brésil.
Oui, l'équipe de France reste invaincue lors de ses 4 derniers matchs à domicile face au Brésil. 2 victoires, 2 nuls. À la veille de ce match hier, Dunga, le sélectionneur brésilien, s'était exprimé en conférence de presse sur son retour au Stade de France. Souvenez-vous, près de 17 ans après la déroute contre la France, c'était en finale lors de la Coupe du Monde 1998. Victoire des Bleus, 3-0. On se souvient évidemment des buts de Zinedine Zidane. Et côté africain, ce jeudi, le Qatar face à l'Algérie, la Côte d'Ivoire contre l'Angola et samedi, le Togo face à l'île Maurice. Convoqués pour ce match, Emmanuel Adebayor, Kossi Agassa et Floyd Haïté n'ont pas rejoint la sélection togolaise qui devrait être coachée pour l'occasion par le Belge Tom Saint-Fier.
La NBA, championnat de basket nord-américain.
Oui, le champion NBA en titre San Antonio a écrasé Oklahoma City 130-91, alors que Toronto s'est assuré une place en play-off malgré une défaite contre Chicago 116-103. Défaite de Boston contre Miami 93-86. Charlotte qui est battue face à Brooklyn 88-91. Belle victoire des Los Angeles Clippers contre New York 111-80. Autre victoire à l'extérieur, celle d'Atlanta sur le parquet d'Orlando 95-93. Washington qui s'incline encore une fois face à Indiana 101-103. Phoenix battu par Sacramento 90.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Idrissa Seydoudia et Morgan Guerriec en votre compagnie. Place au dossier du jour.
La région de Diffa, dans l'extrême-est du Niger, est sous état d'urgence suite aux attaques répétées des islamistes de Boko Haram. Dès la tombée de la nuit, toutes les rues sont désertées, mis à part les patrouilles de l'armée qui ont déjà arrêté près de 300 suspects. L'offensive des troupes nigériennes et tchadiennes à l'intérieur du Nigeria leur a permis de reprendre les villes de Douchi, Damasak, des mains des islamistes. Depuis une semaine, les soldats du Niger attendent l'arrivée des troupes nigérianes pour la relève à Damasak. Idriss Fall, notre envoyé spécial, s'est entretenu à ce sujet avec le colonel Moussa Salao Barmou, commandant de la zone de défense numéro 5 et chef du centre régional des opérations de Diffa.
Au moment où je vous parle, l'armée nigériane n'est pas encore arrivée à Damasak. Malheureusement, nous sommes obligés de rester jusqu'à ce qu'ils viennent prendre le relais. Après, on pourra continuer nos opérations. Mais bon, on ne va pas continuer à attendre indéfiniment aussi là-bas. Nous sommes en train d'envisager la possibilité de continuer notre opération de ratissage le long de la Koumadougou.
Et quelle est la situation au plan sécuritaire à l'intérieur de la région de Diffa? Parce qu'on entend souvent des coups de feu quand même, des séances de tir pas loin de Diffa.
Oui, la situation pour le moment au niveau de Diffa, je peux dire qu'elle est sous contrôle. Si maintenant vous entendez le coup de feu, c'est que souvent nous avons nuitamment des individus qui cherchent à s'infiltrer dans la ville, parce qu'effectivement de plus en plus la situation est intenable pour eux le long donc de la Koumadougou Yobé. Par exemple, nous avons pris des dispositions vraiment pour leur couper au maximum leur voie de ravitaillement. Il y a eu une série d'accrochages, il y a aussi des opérations de bombardement de positions identifiées que nous faisons. Donc de plus en plus, il est devenu intenable pour certains de rester sur leur position. C'est pourquoi donc il y a certains qui, de façon individuelle comme ça, quittent leur position et essaient de s'infiltrer dans la ville où ils ont, pour certains, de la famille, des parents, ainsi de suite.
En parlant d'infiltrer, il y aurait eu de nombreuses arrestations à Diffa et dans la région?
Oui, bien entendu, depuis le 6 février, le jour où ils nous ont attaqués. Nous avons été très entreprenants à démanteler les réseaux de recrutement, de ravitaillement de Boko Haram. À ce titre, il faut noter que l'état d'urgence a été déclaré dans la région de Diffa. Nous a donné effectivement des pouvoirs de police qui nous ont permis d'aller fouiller des maisons, des individus qui étaient suspects, sur lesquels il y avait beaucoup de présomptions. On leur a mis la main dessus. Aussi, ce qui nous a permis de plus en plus de démanteler ces différents réseaux qui existent dans la ville de Diffa et dans les villes environnantes.
On nous en parlait d'un certain banquier, financier, recruteur qui avait été arrêté ici même à Diffa.
Ce monsieur dont vous parlez, il est présentement dans les mains du service central de lutte contre le terrorisme qui sont effectivement en train de mener des investigations pour voir son degré d'implication dans Boko Haram.
Dans tout cela, est-ce que vous avez perdu beaucoup d'hommes?
Nous avons eu quelques pertes. Je pense que nous avons quelques dizaines, autour de 24-25 pertes en vie humaine.
Le colonel Moussa Salao Barmou, commandant de la zone de défense numéro 5 et chef du centre régional des opérations de Diffa.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum. Ce jeudi, plein feu sur les élections nigérianes du 28 mars. Enjeux et acteurs clés, le Nigeria choisira-t-il la continuité ou l'alternance? Qui de Jonathan ou de Buhari l'emportera? Boko Haram de Shekau jouera-t-il le trouble fête? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h TV.
Comme tous les jours cette semaine, les élections présidentielles et législatives prévues ce samedi 28 mars au Nigeria, c'est un double sentiment d'inquiétude et d'espoir qui prévaut dans la rue à deux jours du grand rendez-vous électoral. Mais pour rassurer les Nigérians, les deux principaux candidats à la présidentielle, Goodluck Jonathan et Muhammadu Buhari, se sont engagés ce jeudi à respecter le résultat du scrutin. Pour en parler davantage, Jacques Aristide a joint l'envoyé spécial de la VOA sur place, Anne Louk.
Le mouvement va être un peu restreint. Vendredi, samedi, dimanche, les gens ils commencent à rentrer chez eux. Ils vont être rentrés pour voter dans leur ville ou dans le village natal. On a le président Jonathan et Muhammadu Buhari qui ont signé un autre accord aujourd'hui. C'est un renouvellement de l'accord de paix qui a été signé entre les candidats le 14 janvier. En fait, aujourd'hui, ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils vont respecter les résultats du scrutin. Ils disent toujours qu'ils veulent un scrutin libre, crédible, transparent. Ils ont appelé à leurs militants de rester calmes, de rester sereins, de ne pas sortir dans la rue. On ne sait pas ce que ça veut dire en termes réels, parce qu'il faut rappeler par exemple que le candidat Buhari, c'est la quatrième fois qu'il se présente dans une élection présidentielle. Les trois autres fois, il a contesté chaque élection. Alors, mais les gens ici ils disent que en fait c'est un signe de confiance, c'est une mesure de confiance. Alors c'est ça l'actualité aujourd'hui.
Frontières fermées, circulation interdite, lutte serrée, inquiétude internationale, lendemain difficile à prévoir, vous l'avez dit. Quand vous parlez aux gens dans la rue, y a-t-il un sentiment d'inquiétude parmi les Nigérians à deux jours de ces élections cruciales?
Oui, je dirais qu'il y a un peu d'inquiétude, il y a un peu d'espoir. C'est mélangé avec peut-être un peu de prudence. Les gens, ils restent calmes, ils disent « ouais, on va juste voir comment ça se passe ». Mais aussi, moi, ce que je ressens chez les gens aussi, ici, c'est que les gens, ils ont hâte que ça se fait, quoi, qu'on aille aux élections. Parce qu'en fait, il y a une vraie psychose qui existe au Nigeria à propos de ces élections, à propos des problèmes que ça peut amener dans le pays. Et ça existe depuis des mois et des mois. Et aussi, il faut se rappeler, ces derniers deux ans, ils ont quitté une période très mouvementée dans la politique au Nigeria. Je pense que les gens, la tension a monté. Et puis, on a repoussé les élections par 6 semaines. Alors moi, j'ai l'impression que maintenant, les gens, ils disent « oui, on y va, on veut faire ça, on veut voir comment ça se passe, on veut être fini avec cette histoire d'élection. »
C'était Anne Louk, l'envoyé spécial de la Voix de l'Amérique au Nigeria.
Visite aujourd'hui de la présidente de la Commission de l'Union africaine à Bujumbura. Selon le secrétariat de l'organisation continentale, Madame Kosazana Dlamini Zuma vient soutenir le Burundi où des élections sont prévues entre le 26 mai et le 24 août 2015. Ce pays connaît de vives tensions en relation avec la question d'un éventuel troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Timothée Donangmaï a joint à Bujumbura Serge Nibizi, journaliste indépendant.
D'après des sources à la présidence, on dit que c'était une visite qui était prévue depuis longtemps. Mais elle arrive dans une situation tendue où il y a, une crise même au niveau du parti au pouvoir. On parle d'élection, on parle de cette question de mandat du président public, deuxième ou troisième mandat, selon les uns ou les autres. Et alors, je crois que c'est une question qui sera évoquée. D'ailleurs, d'après des sources à la présidence, on dit que la question des prochaines élections sera discutée entre le président de la République, Nkurunziza, et Mme Zuma.
Alors, vous parlez d'une crise au sein du parti au pouvoir. On parle même d'exclusion de certains membres de ce parti. Qu'en est-il?
Oui, 10 personnes qui ont signé une pétition, une lettre qui est adressée au président de la République pour lui dire de ne pas briguer un troisième mandat. 10 parmi les signataires viennent d'être liés de la liste des membres du CNDD-FDD, dont notamment le porte-parole du président et le porte-parole du parti présidentiel.
Comment le président et son camp réagissent-ils à ces événements?
Pour moi, son conseil de communication préfère dire que la pétition ne devrait pas être adressée, mais que c'est peut-être à elle qu'on devrait adresser la pétition, notamment le président, le président du parti au pouvoir. C'est la réponse qu'on donne pour le moment au niveau de la présidence.
On sait que l'opposition et la société civile et même l'Église catholique étaient contre un troisième mandat du président Nkurunziza. Comment ces groupes réagissent-ils à ces derniers événements?
Depuis un certain temps, la société civile, l'Église catholique et les partis d'opposition étaient farouchement contre un troisième mandat. Aujourd'hui, qu'il y a une partie des membres du CNDD-FDD qui sont de la même avis que ces groupes-là et ils se réjouissent.
Serge Nibizi, journaliste indépendant, joint à Bujumbura.
Le gouvernement béninois au secours des jeunes face à la persistance des difficultés qu'éprouvent ces derniers à se trouver un emploi. Un projet dénommé Corps de volontariat des jeunes a été lancé en 2014. Il vise à recruter des jeunes pour les former et leur permettre d'acquérir de l'expérience professionnelle et pour pouvoir ainsi se faire employer ou s'auto-employer. De Cotonou, un reportage de Peggy Ludovic Dagba.
2700 jeunes béninois ont été recrutés en 2014 dans le cadre de ce projet de corps de volontariat et ils sont actuellement en formation pour 2 ans afin d'acquérir une base solide non seulement dans leur domaine spécifique de formation mais aussi et surtout en matière de civisme pour bien maîtriser la notion du service public. Idrissou Safiou Afo, ministre béninois de la jeunesse, des sports et loisirs, en charge de la gestion du projet.
Le jeune qui rentre aujourd'hui dans l'administration publique, quand vous lui confiez du travail, la question qui se pose, qu'est-ce que je gagne dedans? Il faut créer un choc dans la tête des jeunes à travers la formation patriotique, la formation civique.
Une fois la formation achevée, ces jeunes sont mis à la disposition de l'administration publique, selon les sollicitations où ils mettront en application les connaissances acquises afin de se confronter à la réalité du terrain. L'expérience est édifiante pour bon nombre d'entre eux. Écoutons quelques volontaires rencontrés dans certains ministères qui les emploient à Cotonou.
Quand les gens postulent pour des concours, on demande expérience 2 ans, 3 ans, 5 ans. Donc, ce projet de volontariat vient à point nommé pour permettre aux jeunes d'avoir cette expérience pour pouvoir postuler demain à d'autres projets.
Quand j'ai commencé, j'ai trouvé que ce projet est bien dans l'ensemble. Ça permet à ce que l'on fasse ce qu'on a appris, on a exercé. Ce n'est pas d'autre chose que ce qu'on a.
Le volontariat, c'est une bonne chose que moi j'apprécie personnellement. Ça nous a permis beaucoup d'acquérir de l'expérience au niveau de l'administration. Aussi, permet de subvenir à nos besoins personnels afin de ne pas être toujours à la charge.
L'État ne pouvant pas les recruter tous à la fin du projet, bon nombre d'entre eux devront s'auto-employer à travers la mise en œuvre des projets qu'ils concevront. Mais existe-t-il des moyens financiers pour les accompagner? Réponse du ministre Idrissou Safiou Afo.
Il y a des moyens, je vous le dis, les BPC, il y a le FNPEJ, il y a le Fonds National de Microfinance, il y a également les banques. Il y a de cela, je crois, un an et demi, le président Équateur Guinéen, quand il a rendu visite à son ami, le président de la République, a annoncé aux jeunes qu'il y a une banque Équateur Guinéen qui va s'installer au Bénin avec un capital social de près de 10 milliards. Il a dit que c'est pour financer les jeunes, leurs projets.
2,4 milliards entièrement financés par l'État béninois auront servi à la mise en route de ce projet. Le même montant, sinon plus, est attendu pour recruter 3 000 autres jeunes pour le compte de cette année 2015, a annoncé le ministre de la Jeunesse, des Sports et Loisirs. Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Morgane, un rappel de quelques grands points de l'actualité.
En République centrafricaine, plus d'une dizaine d'éleveurs peuls ont été tués et plusieurs autres retenus en otage ces dernières 48 heures dans la préfecture de la Nana Gribizi, au centre-nord du pays. Et c'est dans ce contexte de violence que l'ONU a décidé d'augmenter le nombre de casques bleus opérant en RCA. Dans le même temps, en République démocratique du Congo, les Nations Unies ont décidé de réduire les effectifs militaires de 10%, soit 2000 hommes sur près de 20 000 soldats autorisés. Sécurité renforcée en Ouganda ce jeudi, une décision qui fait suite aux menaces d'actes terroristes par les islamistes somaliens Al-Shabaab, mais aussi à une mise en garde des États-Unis contre un risque d'attentat imminent à Kampala. L'armée nigériane retient depuis mardi 2 journalistes d'Al Jazeera à Maïdougouri, dans le nord-est du pays, a annoncé aujourd'hui la chaîne de télévision basée au Qatar.
À la mise en onde ce soir, Georges Léonard Sagno, présentation Morgane Guériec et Idriss Assedoudia.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.